Bienvenue à l'écomusée du Pays de la Cerise, qui a pour dessein d'évoquer 150 années de techniques et de traditions liées à la fabrication du kirsch. En effet, ici la terre est propice à la culture du cerisier. Dès la fin du XVIIe siècle, ce fruit est distillé par les agriculteurs du pays fougerolais. Au départ, simple activité agricole, ce savoir-faire s'est progressivement transformé en une véritable industrie au milieu du XIXe siècle. Dans les années 1900, Fougerolles compte une quarantaine de distilleries industrielles et des trains entiers partent alimenter la France en alcool fougerolais. Parallèlement, les secteurs de la vannerie, de la tonnellerie et de l'imprimerie profitent de ce dynamisme économique. Aujourd'hui, encore quelques distilleries industrielles et de nombreux petits producteurs participent à la renommée de Fougerolles. L'obtention en 2010 de l'AOC Kirsch de Fougerolles est venue couronner leurs efforts et valoriser leur savoir-faire. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et sortez de l'accueil. Puis, empruntez le chemin qui longe le muret. Rendez-vous face à la maison de maître. Nous sommes devant l'une des premières distilleries de Fougerolles. Comme vous pouvez le lire sur le linteau, le bâtiment, en grès des Vosges, a été construit en 1829 par Del-Joseph Aubry, un paysan distillateur. Le style architectural de la façade témoigne de ce mélange des genres. Au balcon bourgeois du bâtiment répond le charri, une sorte d'avant-grange intégrée au bâtiment, typique de la ferme des Vosges saônoises. Ici, tout est plus grand, plus ample que dans une exploitation agricole traditionnelle. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et entrez dans la maison. Rendez-vous dans la cuisine, la première pièce sur votre droite en entrant. Nous voici dans la cuisine. La cuisine était autrefois la pièce principale de la maison, car chauffée toute la journée grâce à la grande cheminée à lâtre. Elle est meublée avec du mobilier typique de la région. Une table à pétrin, un vaisselier avec des faïences régionales, une horloge comtoise. La frise chronologique sur le mur évoque l'histoire du domaine. La famille Aubry le fonde et l'exploite jusqu'en 1888, date à laquelle il est vendu aux enchères, Joseph-Victor Aubry, le petit-fils du fondateur, ayant dilapidé la fortune familiale. Les époux Ougier le rachètent alors, mais n'y restent que peu de temps, préférant une autre distillerie plus proche de la gare. La gare était alors le centre névralgique de la commune. C'est pourquoi ils vendent le domaine en 1901 à la famille Simon, qui l'exploite jusqu'en 1978, date à laquelle il ferme ses portes. Il devient alors un lieu de sauvegarde du patrimoine local. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et rendez-vous dans la pièce suivante. Nous sommes maintenant dans la salle à manger, appelée aussi le poêle. Dans ces vitrines sont exposés divers objets qui témoignent de deux modes de vie différents. Les uns, très simples, issus du monde de la paysannerie, contrastent avec ceux plus luxueux de la bourgeoisie locale. Une bourgeoisie issue du monde paysan qui s'est enrichie grâce à la distillation. Sur le mur du fond de la pièce, vous pouvez lire l'inventaire après décès de Del-Joseph Aubry en 1840 et le procès verbal de la vente aux enchères des biens mobiliers du domaine en 1888. Prenez le temps de comparer l'évolution de la richesse de la famille Aubry à moins de 50 ans d'écart grâce à la fabrication d'alcool. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et rendez-vous dans la pièce suivante. C'est ici, dans le bureau, que le distillateur gérait ses affaires. En 1881, la mise en service de la gare dynamise fortement la production des distilleries qui, grâce aux voies de chemin de fer, peuvent alors expédier de grandes quantités d'alcool à moindre coût dans toute la France. L'économie locale est dès lors prospère, portée par une forte consommation d'alcool des Français. Consommation qui ne cesse d'augmenter durant le 19e siècle, comme vous pouvez le lire sur le mur au-dessus de la cheminée. Rendez-vous compte, on consommait en moyenne en 1898, pas moins de 35 litres d'alcool, équivalent 50 degrés par habitant, y compris femmes et enfants, par an. Les facteurs pouvant expliquer cette augmentation de la consommation sont multiples. D'une part, la consommation va de pair avec l'augmentation du nombre de cafés, cabarets et autres débits de boissons à la même époque. D'autre part, nous sommes en pleine révolution industrielle. La mécanisation, qui s'applique à la production d'alcool, permet d'en produire de grandes quantités et à moindre coût. Alcool acheminé facilement par le rail. Sans oublier les facteurs sociaux, on boit pour oublier la rudesse du temps, d'un travail éreintant. Dès le XIXe siècle, des voix s'élèvent pour dénoncer les dangers de cette forte consommation d'alcool. C'est le cas d'Émile Zola, qui écrit en 1876 « L'Assommoir », dans lequel il décrit les ravages causés par la misère et l'alcoolisme. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et sortez du bureau par la petite porte à côté de la cheminée. Passez le petit couloir, rendez-vous dans la salle de stockage. Nous voici dans la salle de stockage. Les alcools destinés à une vente rapide étaient autrefois stockés dans des tonneaux de chêne ou de frêne. Si vous vous approchez, vous verrez que l'on inscrivait sur les tonneaux systématiquement la contenance en hectolitres, la hauteur et le nom de l'alcool. Pour garantir la transparence de l'eau de vie, l'intérieur des tonneaux devait être paraffiné. Un travail souvent confié aux enfants dont la petite taille permettait d'entrer dans les tonneaux. Et ce, malgré les risques liés à l'inhalation des vapeurs d'alcool. Outre les tonneaux, les différentes machines et outils présentés ici donnent un aperçu des différentes opérations de conditionnement. Filtrage et réglage de l'alcool, embouteillage, étiquetage. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et poursuivez la visite en montant à l'étage par l'escalier face à la porte d'entrée. Rendez-vous dans la première pièce sur votre gauche. Nous voici dans l'une des chambres de la maison. L'alcool n'est pas une substance culturellement innocente. Il a une fonction rituelle et sociale lorsqu'on le consomme pour les naissances, baptêmes, les mariages et les décès. Ainsi, à Fougerolles, à la naissance d'un enfant, on n'oubliait jamais de mettre de côté quelques bouteilles de gouttes que l'on buvait à la communion de l'enfant, par exemple, ou à son mariage. Dans la vitrine sont présentés divers objets liés au temps fort de la vie sociale et religieuse d'autrefois. Robes et bonnets de baptême, couronnes de communiantes, aumônières, bâtons de conscrits. La robe exposée ici est une robe de mariée datant du début du XXe siècle. Sa couleur noire permettait à la mariée de la porter à diverses occasions tout au long de sa vie. Un système de fronces au niveau de la jupe permettait d'en ajuster la taille. Approchez-vous et remarquez les délicates broderies de la jupe et les rondes cerises sur le plastron. Dans la pièce jouxtant la chambre, vous pourrez admirer un superbe service à absinthe. L'eau, coulant du robinet de la fontaine, faisait fondre un sucre posé sur une cuillère percée en équilibre sur le verre. Ainsi, l'eau sucrée se diluait dans l'alcool à la saveur anisée. L'absinthe est à la mode en France dès les années 1850. Utilisant leur savoir-faire, les distillateurs fougerolais se lancent donc rapidement dans sa fabrication et certains finissent par en vendre beaucoup plus que du kirsch. Jugée dangereuse, l'absinthe est interdite en 1915, ce qui participa au déclin des distilleries locales. Aujourd'hui, comme la loi l'autorise, elle est à nouveau produite à Fougerolles, et ce depuis 2002. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et sortez de la chambre, rendez-vous dans le couloir aux saveurs. Céleri, verveine, badiane, cassis, fenouil. Nombreux sont les ingrédients utiles à la fabrication des alcools distillés. Savez-vous que les eaux de vie ont longtemps été utilisées comme remède? D'ailleurs, jusqu'au XVIe siècle, la distillation est un savoir-faire maîtrisé seulement par les apothicaires et les médecins. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et rendez-vous dans la seconde chambre, à gauche, au bout du couloir aux saveurs. Nous voici dans une autre chambre de la maison. Pour vendre leurs produits, les distillateurs ont dû mettre en place de nouvelles techniques de commercialisation. Ainsi, c'est par pur intérêt commercial qu'au début du XIXe siècle, l'eau de cerise prend le nom de kirsch. Une appellation plus prestigieuse s'inspirant du Kirschwasser allemand. Grâce à ces stratégies publicitaires, les alcools fougerolais vont bénéficier d'une large notoriété en France. Remarquez la croix suisse sur la bouteille de l'affiche du fond. Elle est censée rappeler inconsciemment aux consommateurs de cet apéritif anisé, le peureux, l'absinthe suisse alors interdite. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et poursuivez la visite en sortant dans le couloir. Empruntez l'escalier qui mène au grenier. Au grenier, le kirsch prend le temps de vieillir. Contrairement à la majorité des vins, ce sont les écarts de température qui révèlent ici la subtilité de l'alcool. Les bonbonnes ne sont tout d'abord pas fermées afin de laisser s'échapper les vapeurs. C'est ce qu'on appelle la part des anges. Au bout de quelques mois, on les ferme enfin par un bouchon de liège. Le kirsch gagne ensuite à se bonifier de longues années au grenier. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et rejoignez la mezzanine en empruntant le passage au fond du grenier à droite. L'impressionnante charpente que vous pouvez admirer ici est conçue en chêne et en sapin. Elle supportait autrefois un toit en lave de grès qui exerçait une forte pression, en moyenne 300 kg au mètre carré. Vous pouvez regarder les deux petits films qui présentent le travail de la vannerie et de la tonnellerie, activités étroitement liées à la production des eaux de vie. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et poursuivez la visite en descendant les passerelles. Rendez-vous dans la salle vert et gris. Vous êtes dans une salle baptisée « Déclin et avenir ». En gris est évoqué le long déclin de la distillation. Au XXe siècle, les distilleries ferment les unes après les autres, le nombre de cerisiers diminue, les Français consomment de moins en moins d'eau-de-vie. En vert, l'avenir. Longtemps une appellation d'origine contrôlée, Kirsch de Fougerolles, a été espérée pour valoriser la filière. Et après de longues années de travail, au printemps 2010, bouilleurs et distillateurs l'obtiennent enfin. Cette AOC est peut-être l'une des plus petites de France, mais elle prouve qu'ici, l'ambition est à la qualité et à l'excellence. Vous pouvez admirer dans cette pièce un échantillonnage de produits locaux, du kirsch aux cerises à l'eau de vie, en passant par la vodka fougerolaise. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et poursuivez la visite en sortant par la porte au fond de la pièce, descendez les escaliers. Rendez-vous dans la partie agricole. Fougerolles a connu une double vocation, à la fois industrielle, avec la présence de nombreuses distilleries qui marquèrent le paysage, mais aussi agricole, comme en témoignent ces nombreux outils présentés ici. Par le passé, les ouvriers des distilleries étaient, pour la plupart, également paysans. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et poursuivez la visite. Descendez des grands escaliers et rendez-vous devant la baie vitrée, face au verger conservatoire. Nous voici dans une salle dédiée à la cerise, avec une belle vue sur le verger conservatoire. Béchat, Tinette, Marie-Jean Diot, Chapendu, voici quelques noms de cerises fougerolaises dont les couleurs varient du rouge vif au noir profond. Toutes ces cerises sont des guignes, issues du merisier greffé. Très sucrée, la guigne est principalement utilisée pour le kirsch. Son délicat parfum fait qu'elle est aussi très appréciée en clafoutis, tartes et autres desserts. Le verger conservatoire de l'écomusée préserve à ce jour une quarantaine de variétés de guignes locales, dont certaines sont en voie de disparition, telle la sacristain. Autrefois, la cueillette se faisait à la main. Le cueilleur se tenait debout sur un pied de chèvre, une échelle locale d'un seul montant traversée par des dents. Il portait un panier en bandoulière autour du cou, la charmotte. La cueillette manuelle nécessite beaucoup de main-d'œuvre pour un faible rendement. Depuis 1973, les cerisiers sont secoués et les fruits récoltés de manière mécanique. À l'extérieur, dans le verger, vous pouvez apercevoir une étrange petite maison, c'est le chalot. Entièrement démontable, sans clous ni vis, il est composé de bois et couvert de grès, lui aussi. C'est un véritable coffre-fort qui servait à conserver le grain et les richesses de la famille. Il est placé, traditionnellement, à l'extérieur de la ferme pour le préserver des incendies. Prenez le temps de regarder les différents films qui vous sont proposés sur la cerise. Près des canapés, qui offrent un point de vue sur le verger, vous pourrez également écouter des chansons. Appuyez ensuite sur la touche pause de votre lecteur et poursuivez la visite. Rendez-vous au fond de la salle, devant le schéma qui explique la distillation. Vous êtes ici devant un schéma expliquant la technique de distillation. Les fruits, issus de la production fougerolaise, sont soit distillés dans les fermes par les bouilleurs, soit acheminés dans les distilleries industrielles. Sans broyer les noyaux, les cerises sont écrasées, conditionnées dans des cuves à l'air libre pour la fermentation. Cette fermentation commence au bout de quelques jours. Ce sont les levures qui se trouvent sur la peau des fruits ou dans l'air qui transforment le sucre en alcool. Au bout de 5 semaines environ, la fermentation est terminée et les cuves refermées hermétiquement. Viendra ensuite, pendant l'année en cours, la distillation, c'est-à-dire l'extraction des alcools de la matière fermentée. Il faudra environ 10 kg de cerises pour 1 litre de kirsch à 50 degrés. À l'aide d'un alambic en cuivre à fenu, au bain-marie ou à la vapeur, les fruits fermentés sont chauffés lentement. Les vapeurs d'alcool s'élèvent dans la tête de l'alambic, passent dans un tuyau appelé colle de cygne et descendent dans un serpentin immergé dans une cuve d'eau froide. La condensation s'opère et l'alcool coule. On le fractionne en 3 parties. D'abord, les âmes, de 80 à 70 degrés. Elles sont impropres à la consommation car contenant du méthanol et des oxydes de cuivre. Puis, le cœur, de 70 à 48 degrés, appelé aussi le bon goût. C'est le kirsch qui sera stocké en bonbonne ou en cuve pour affinage avant commercialisation. À Fougerolles, contrairement à d'autres régions, le cœur n'est distillé qu'une seule fois, on dit qu'il n'est pas repassé. Enfin, les petites eaux, de 48 à 10 degrés. Elles sont troubles et peu parfumées et peuvent être ajoutées à la cuite suivante. Appuyez sur la touche pause de votre lecteur et empruntez le couloir vitré sur votre gauche. Les deux salles successives présentent une grande variété d'alambics. Ceux présentés dans la première salle sont les plus récents. Ils fonctionnèrent sur le site à l'époque de la distillerie Simon. Les autres, disposés dans l'ancienne salle de stockage des tonneaux de fermentation, sont les plus anciens. Malgré cette diversité de formes, le rôle de l'alambic est toujours le même. Extraire l'alcool parfumé du fruit fermenté. Extraire le pur de l'impur par le feu. Tout l'art du distillateur est de maîtriser cette délicate alchimie et d'extraire l'alcool au divin parfum. Votre visite est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre attention et vous invitons à rejoindre l'accueil. Avant de partir, prenez quelques minutes, si le temps le permet, pour vous promener dans le verger. En fonction de la saison et si le cœur vous en dit, vous pourrez peut-être goûter quelques cerises.